RCF.
C'est un homme de théâtre que nous rencontrons aujourd'hui. Samir Siad est comédien, metteur en scène, créateur de la compagnie du théâtre en partance dans la Manche. Né à Oran, il a été baptisé à l'âge de 27 ans. L'homme de parole a notamment mis en scène les écrits de Bernanos et ceux de Thérèse de l'Enfant Jésus. Il nous raconte comment théâtre et foi s'entremêlent. Samir Siad, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici dans le théâtre des Salines à Bricqueville-sur-Mer. Nos auditeurs vont peut-être entendre ce son, eh bien parce que nous sommes sur cette scène du théâtre. Au-delà du théâtre aujourd'hui, c'est surtout votre parcours de foi que vous allez nous partager. Est-ce que vous diriez que votre vocation théâtrale et votre chemin de foi sont intimement liés ?
Alors, ils se sont nourris mutuellement, je dirais. Que ce soit ma pratique théâtrale qui m'amène à interpréter des auteurs, catholiques ou non d'ailleurs, des grands auteurs. Cette fréquentation des auteurs a certainement nourri ma foi. Et puis, je dirais que le choix d'être baptisé m'a amené aussi à monter des auteurs catholiques.
Alors, avant que l'on revienne sur votre chemin spirituel, parlez-nous en quelques mots justement de cette vocation théâtrale. Est-ce que justement c'est une vocation pour vous, le théâtre ?
Oui, on pourrait dire c'est une vocation. Alors là, pour le coup, je peux citer un auteur catholique qui s'appelle Georges Bernanos. Il a une très belle phrase sur la vocation. Il reprend la racine latine du mot vocation. Ça vient de l'adjectif vocatus. Vocatus, en latin, c'est être appelé. Donc, effectivement, j'ai eu comme cet appel, j'ai entendu cet appel intérieur de devoir consacrer ma vie au théâtre quand j'étais jeune homme.
Alors, vous êtes né à Oran, vous êtes ensuite arrivé très vite en France tout jeune. Quels ont été vos premiers contacts avec la foi catholique ?
Alors, effectivement, je suis né à Oran et j'ai quitté ce pays à l'âge de 2 ans avec ma famille, mes 3 frères, ma mère et mon père. Et en fait, je crois que le premier contact a été inconscient, parce que quand on est arrivé en France, d'après ce que ma famille m'a raconté, nous avons débarqué à Lille. Mon père était parti brutalement avec ma famille du jour au lendemain après l'indépendance algérienne. Pour des raisons pas économiques, je dirais politiques, après l'indépendance algérienne, c'était à la fois un moment d'euphorie, de libération pour les Algériens, mais aussi un moment trouble. Mon père a dû, du jour au lendemain, quitter ce pays qui lui était cher, et ma mère aussi, avec ses enfants, et notamment un petit frère qui venait de naître. Donc voilà, du jour au lendemain, avec une simple valise, on s'est retrouvé à Lille. Et là, le premier contact avec l'Église catholique a été avec le Secours catholique, parce que c'est cette association qui est venue en aide à notre famille. Et dans ces soubresauts de l'histoire, on s'est installé en France avec l'aide de cette association. Et malheureusement, mon père est décédé quand j'étais tout petit. Et donc, on était une fratrie de 4 frères. Ma mère se retrouvait à moins de 30 ans en charge avec ses enfants à devoir travailler. Et donc, avec un organisme de l'État, cette fois-ci qu'on appelait la DAS, mais mon petit frère et moi-même, on a été placés dans une famille d'accueil à Poitiers pendant une année. Et après, bien entendu, il fallait se rapprocher de ma mère. Donc, la DAS nous a mis en contact avec, cette fois-ci, un organisme catholique, les orphelins apprentis d'Auteuil, et notamment une maison qui est d'ailleurs l'ancien séminaire, je l'ai appris bien après, du père Brottier, qui était l'un des hommes qui a pris en charge, qui a redonné son souffle et toute sa dimension aux orphelins apprentis d'Auteuil. Aujourd'hui, le saint père Brottier, à l'époque c'était Daniel Brottier, le père Brottier. Eh bien, on s'est retrouvé dans la maison de Thiel, la maison du Saint-Esprit, bien nommée, où on s'est retrouvé une centaine d'enfants. On était une centaine d'enfants en âge d'aller à l'école primaire. Et donc, du CP au CM2, je suis resté dans cet organisme, dans cette maison, et où je retrouvais notre famille seulement une fois tous les 15 jours. Et on a été élevés par des sœurs, notamment des sœurs du Saint-Esprit, pendant 4 ans. Et ça a été crucial.
Et c'est là que vous avez entendu parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour la première fois, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors ensuite, après cette primaire chez les orphelins apprentis d'Auteuil, vous continuez votre chemin un peu éloigné de ce milieu catholique. Et puis, jeune adulte, vous demandez le baptême. Pourquoi ce choix, cette demande ?
Alors oui, bon, ce sont les aléas de la vie qu'on ne maîtrise pas toujours. La même façon que j'ai été plongé, sans l'avoir demandé, pendant 4 années dans un institut religieux où, en fait, quand on était chez Orphelins Perdus d'Auteuil, il n'y avait pas seulement des catholiques, il y avait peu de catholiques qui étaient là, en tout cas chez les enfants, parce que c'était à l'époque beaucoup des gens des bold people. J'avais beaucoup d'amis, de camarades asiatiques ou africains, l'Afrique centrale, de Zaïre, etc. Mais en même temps, dans l'éducation, on avait une éducation comme une école primaire tout à fait normale. Et puis, il y avait des cours de catéchisme auxquels on était associés. Mais à aucun moment, on a été, je dirais, à notre corps défendant, éloigné de nos origines. Moi, j'étais d'origine musulmane. Ils acceptaient, par exemple, que je ne mange pas de porc. Maintenant, comme une culture générale, on baignait dedans. Mais ça montre bien qu'il n'y a eu à aucun moment une espèce de prise de possession, en quelque sorte, de notre liberté de conscience. Parce que quand je suis entré en sixième, eh bien sûr, tout ça a été en moi, mais je suis entré dans un collège tout à fait normal, même, je dirais, de la région parisienne, donc un collège laïque, pour pas dire laïcard. Et j'ai un peu... De la même façon que je n'étais pas fermé à ce que j'avais reçu chez Orphelins Perdus d'Auteuil, j'ai un peu adopté l'idéologie ambiante, que ce soit au collège ou au lycée, une idéologie, je dirais presque, pas anti-chrétienne, mais quand même, oui, un peu portant un regard pas très favorable sur la religion, et en particulier sur la Bible et tout ça. Tout ça a été un peu des idées d'enfants, superstitieuse, etc. Il fallait passer à l'âge adulte, avoir une conscience philosophique autre, et voilà. Et donc, j'étais un peu là-dedans. Mais en même temps, c'est ça qui est paradoxal, c'est l'individu, c'est qu'il est multiple. En même temps, ces origines musulmanes n'étaient pas du tout absentes de mon esprit, parce que ma mère était une croyante tout à fait naturelle. Elle entrait d'ailleurs aussi facilement dans une église que dans une mosquée, et elle avait d'ailleurs aucun problème quand on était chez les Orphelins Perdus d'Auteuil. Elle voyait que c'était des femmes de foi, et elle aimait bien cela. Ma mère a quitté l'école en CM2, donc c'est pas une grande théologienne musulmane, mais c'était ce qu'on appelle des personnes avec une foi, comme je dirais, naturelle. Et elle nous baignait dans un milieu dans une pensée de elle disait régulièrement je prie pour vous, elle avait des choses comme ça voilà, la dimension spirituelle n'était pas absente de la vie. Et donc, je l'avais, ça aussi, mais en même temps, j'étais cet étudiant, cet élève, en tout cas, de lycée, voilà, faisant des dissertations, étudiant Voltaire, etc. Et puis, un jour, il y a un héritage très important dans ma famille. Si mon père nous a légué une chose, à travers mes grands frères, mes deux grands frères, c'est le goût de la lecture. Lui-même était autodidacte. Et je me souviens que le premier acte qu'a fait mon frère, l'un de mes deux frères aînés, quand je les ai rejoints à Alfortville, parce que c'est la ville de la région parisienne où on habitait, c'est qu'il m'a amené à la bibliothèque municipale et il m'a inscrit à la bibliothèque. Et il m'a donné ce goût de la lecture, des livres. Et très vite, je suis venu quelqu'un qui aimait beaucoup la littérature française, etc. Et je me souviens qu'un jour, alors que j'étais en terminale, à la bibliothèque du lycée, pour le coup, je suis tombé un peu par hasard sur un livre d'un auteur français, René Girard, anthropologue. Et il a écrit des livres sur une méditation, en quelque sorte, anthropologique, philosophique, sur la religion, sur les religions. Comment c'est que les hommes croient ? Il étudie les religions primitives, les mythes, etc. Mais il place au cœur de sa réflexion la Bible, à un moment donné. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il montre comment ces écrits rejoignent complètement toutes les religions universelles, mais sont en rupture. Et en particulier, pour aller très vite, le Nouveau Testament, où il montre que le Christ emprunte le même chemin que, par exemple, Œdipe, dans le sens où ça devient un bouc émissaire d'une violence collective, il est mis à mort, mais alors que dans toutes les religions, de façon universelle, cette victime est sacralisée, mais elle est à la fois responsable du mal, Œdipe est incestueux et parricide, le Christ est la victime innocente par excellence. Même le centurion au pied de la croix, cet homme, ou le bon larron, ce qu'on appelle le bon larron, n'a rien fait. Il n'a rien fait. Nous, on mérite d'être sur la croix, on a commis du mal, mais lui n'a rien fait. Ça m'a beaucoup intéressé, et donc d'un seul coup, j'ai porté un nouveau regard sur la Bible. essayant d'aller un peu plus loin, donc essayant de la lire.
Voilà, les années passent quelque part et puis vous reprenez contact avec une religieuse avec qui vous étiez chez les orphelins apprentis d'Auteuil et c'est à elle que vous exprimez votre désir d'être baptisé.
Oui, il y a la lecture, mais à un moment donné, il y a des rencontres. Il y a des rencontres et il y a plusieurs rencontres très importantes. Effectivement, je fais une école de théâtre à Strasbourg. J'ai un métier entre les mains, je suis un jeune homme. Et d'un coup, ça me fait me retourner vers le passé. Et je viens donc des orphelins apprentis d'Auteuil. Et comme l'objectif de cet organisme, quand le père Brottier, cette intuition, c'était des enfants, de les mettre debout, dans le sens où, effectivement, de les aider, pas de les assister, de les aider et de leur donner un métier. Orphelin apprenti d'Auteuil. Et donc, j'avais un métier. Je pouvais enfin être un homme debout, gagner ma vie. Et d'un seul coup, ça m'a donné envie de manifester ma reconnaissance à l'égard des personnes. Je me rendais compte a posteriori que sans ces sœurs en particulier, je n'aurais pas appris à lire, à écrire de la même façon. Je n'aurais pas bénéficié d'un tel milieu d'épanouissement. Et donc, j'ai retrouvé, bien après, la sœur, notamment, qui m'avait élevé, sœur Jean, que j'ai retrouvée, qui était restée totalement la même, qui m'a reconnue immédiatement. Et j'ai parlé de ce désir que je mesurais pas trop bien du baptême. J'arrivais à ce point-là. Et donc, elle m'a mis en contact avec il y a une communauté spiritaine, donc des pères spiritains. Le père Brottier était un spiritain, un missionnaire, qui s'occupe d'Auteuil. Hein. Et donc, elle m'a mis en contact avec l'ancien responsable de cette communauté spiritaine. Et là, je suis tombé sur des prêtres de grande valeur et qui m'ont accompagné pendant mon catéchuménat et qui m'ont permis de recevoir le baptême.
Donc, vous avez été baptisé à Paris, puis confirmé des années plus tard à Coutances. Est-ce que, justement, le fait d'être chrétien, c'est compliqué dans le monde du théâtre, qui peut parfois être un peu anticlérical ?
Alors, effectivement, c'est complexe, dans le sens où le théâtre, en France, est multiple. Mais, peut-être les spectateurs ne le mesurent pas bien, mais en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une réforme du théâtre. En quelque sorte, il y a un théâtre de divertissement, un théâtre qui est très bien, un théâtre de boulevard et tout ça, mais il y a une dimension artistique, un théâtre d'art. Et notamment des gens comme Jean Villard, le théâtre populaire, était porté par la résistance française. Et la résistance était beaucoup... Il y a beaucoup de résistants qui ont été communistes. Il y avait toute cette aura du communisme. Et donc... les grandes institutions théâtrales et toute cette réforme du théâtre et c'est aujourd'hui tous ces centres dramatiques qu'on a en région, ces théâtres nationaux, eh bien, étaient beaucoup nourris par cette pensée. Il y avait comme une mystique du communisme, une volonté d'amener la bonne parole aux masses populaires, etc., à travers l'art et à travers le théâtre en particulier. On jouait dans les usines et tout ça, mais en même temps avec une grande ambition. Et c'est une chose magnifique, un magnifique héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Le pendant de cela, c'est que quand même, il y a aussi, c'est des mystiques qui luttent les unes contre les autres peut-être. Et donc, il y a comme une espèce de rejet aussi du... la foi catholique. Voilà. Il y a toute cette tradition en France qui remonte à bien avant la Deuxième Guerre mondiale, toute cette lutte, etc. Et effectivement, le théâtre, ce théâtre-là, qui est un peu le théâtre qui fait autorité intellectuelle, artistique, il est beaucoup imprégné de ces valeurs-là. Et donc, antichrétienne. Il n'empêche qu'il y a quand même des exceptions, et puis il n'y a pas un ostracisme. Après, ça dépend des individus. Hein. Il y a quelqu'un comme Antoine Vitesse, par exemple, qui est un des grands patrons du théâtre, qui est décédé aujourd'hui, mais un des grands patrons et qui est héritier totalement de ça, un enfant lui-même de Villard et tout ça, eh bien, il montait du Claudel. Hein. Voilà, donc tout ça peut être complexe. Pour répondre à votre question, en même temps, le théâtre a vraiment à voir avec une dimension de communion avec un public. Transporte des valeurs, je dirais, de pensée, donc a fortiori des valeurs spirituelles, artistiques. Donc, il n'y a pas de dichotomie.
Il y a peut-être un éveil spirituel qui peut se faire grâce au théâtre ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et à travers les textes, parce qu'on monte toutes sortes de textes, c'est vraiment un lieu de parole, hein, de la parole. Et donc... L'esprit souffle, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, Et l'esprit utilise, c'est un vecteur tout à fait privilégié, que d'un seul coup des personnes qui font silence, qui écoutent une parole en total respect de leur liberté de penser, c'est un lieu formidable, hein, bien sûr.
Samir Siad, à l'occasion des 100 ans de la béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et des 150 ans de sa naissance, vous avez joué avec le père Régis Rollet, ici même, un dialogue théâtral sur les écrits de Sainte Thérèse. En quoi, justement, ces écrits se prêtent bien au théâtre et à cette oralité ?
Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, à travers un auteur, donc j'en ai parlé tout à l'heure de Georges Balanos, j'ai rencontré un autre prêtre, un peu plus âgé, qui aujourd'hui malheureusement est disparu, Monseigneur Guy Gaucher, qui est d'abord quelqu'un qui a beaucoup lu Balanos, et à travers Balanos, a découvert la figure de Thérèse de Lisieux, qui était recouverte d'un plâtre un petit peu saint-sulpicien, et s'est rendu compte que c'était une figure spirituelle cruciale, à tel point qu'il a consacré toute sa vie aux écrits de Thérèse de Lisieux, et ça a été l'un des grands artisans, non seulement de la réédition de toutes les écrits de Thérèse de Lisieux, mais aussi de la cause de docteur de Thérèse de Lisieux dans l'Église, en contact avec Jean-Paul II, etc. C'est beaucoup lui qui a été la cheville ouvrière de cela. Et un jour, il me téléphone, et il me dit, ayant vu un spectacle de Balanos que nous avions interprété, « Est-ce que tu sais, Samir, je crois qu'il me voyait, est-ce que, après on s'est tutoyé, est-ce que... vous savez que Thérèse de Lisieux a écrit du théâtre à Julien, complètement. Or, Thérèse de Lisieux, pour moi, j'en avais un souvenir, parce que quand j'étais chez les orphelins à partir d'Auteuil, le premier acte qu'a fait le père Brotti en prenant en charge cet organisme que son supérieur des spiritains lui a confié, c'est qu'il dit « D'accord, je m'en occupe, mais je ne peux rien faire si je ne choisis pas Thérèse de Lisieux comme, en quelque sorte, maman des orphelins à partir d'Auteuil, et pour cela, j'érige le premier sanctuaire consacré à Thérèse de Lisieux à Paris, rue La Fontaine. » Donc il a fait cet acte un peu fou, alors que l'œuvre était en déliquescence financière et tout ça, de bâtir une église, une chapelle consacrée à Thérèse de Lisieux, où aujourd'hui on se rend, etc. Et donc j'avais toujours cette statue de Thérèse de Lisieux à la maison du Saint-Esprit à Thiers, chez les orphelins d'Auteuil, qui était présente comme figure tutélaire à même titre que le père Brotier. Donc j'ai retrouvé Thérèse de Lisieux à travers Balanos, et on a bâti un spectacle à partir de ces pièces que Thérèse de Lisieux a écrites pour ses sœurs, qu'elle a appelées des récréations pieuses, et notamment deux pièces consacrées à Jeanne d'Arc. Et donc, on a mis en scène ces pièces à Lisieux, dans le théâtre de Lisieux. Donc, Régis, sachant cela, m'a proposé de faire dans un autre prisme, une présentation, faire découvrir Thérèse de Lisieux à travers ses écrits. Donc, je lui ai proposé un peu à travers, que ce soit sa poésie, que ce soit ses manuscrits, que ce soit ses lettres, parce qu'elle a incroyablement beaucoup écrit, cette jeune femme qui est décédée à 24 ans, eh bien, on a comme ça, en relisant les œuvres, créé une espèce de livret théâtral qui donne naissance à un dialogue entre un homme de la parole, Régis, et un homme des paroles théâtrales, Samir.
Alors, on imagine que pour écrire justement le texte, vous travaillez les écrits de Thérèse, mais pour les apprendre à les déclamer, est-ce que eh bien, ça vous permet de les retenir, de les découvrir d'une autre manière, de les prononcer à l'oral ?
Alors oui, souvent l'idée reçue qu'on a, et moi-même le premier, ce qu'on dit de Thérèse, oui, c'est une jeune femme qui écrivait, mais qui d'ailleurs avait des problèmes d'orthographe, ses sœurs aînées qui lui ont enseigné à écrire et tout ça. Et puis, c'est beaucoup connoté par l'époque du 19e siècle, donc ce côté un petit peu à l'eau de rose et tout ça. Mais en fait, en lisant les écrits de Thérèse, j'ai pas eu cet avis-là. Je trouve qu'elle écrit remarquablement. Il y a de l'humour, il y a une immense profondeur. Et à moi, il y a un feu qui l'habite véritablement. Et c'est un grand auteur. Je comprends pourquoi elle a bouleversé des grands écrivains comme Bernanos, justement. Et donc, ce qui est l'avantage au théâtre, c'est comme on est amené à incarner les paroles, à les mettre en bouche, et pas seulement en bouche, mais en quelque sorte à les faire descendre en soi pour les dire. Eh bien, il y a un autre rapport à l'écriture qui se met en place. Le fait de dire. Et Thérèse, c'est une parole très forte, très très forte.
Samir Siad, vous parliez régulièrement de Bernanos et vous l'avez beaucoup mis en scène également. Je ne résiste pas à la question de qu'est-ce que Bernanos nous dirait aujourd'hui face aux différentes crises que nous traversons. Ses propos sont très contemporains quand on les lit.
Bernanos, en fait, je me rends compte, a une dette immense à l'égard de Thérèse. Il redit finalement ce que Thérèse nous dit aussi. Et alors, en une parole un peu, redevenez des enfants. C'est cette chose-là, c'est un esprit de l'enfance. Alors, redevenir les enfants, c'est pas être infantile. Bernanos était tout sauf infantile. C'est quelqu'un qui est un immense romancier, mais aussi quelqu'un qui a dû, un peu à son corps défendant, laisser tomber sa première vocation qui est d'écrire des romans pour réagir par rapport à l'actualité. Et c'est l'actualité qu'elle a affrontée à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, que ce soit la Première Guerre mondiale, la montée du fascisme, les totalitarismes, la guerre d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, elle a été gâtée. Et donc, il a dû, malheureusement, laisser tomber l'écriture de ses romans pour écrire ce qu'on a appelé les écrits de combat. Donc, réagir vivement par rapport à cette actualité. Et alors, que ce soit par rapport à Hitler, par rapport au fascisme, souvent, d'ailleurs, quand je rencontre des intellectuels, ils me disent « Ah, oh, c'est dommage, Bernanos, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui par rapport à tout cela ?» Eh bien, je crois qu'il dirait beaucoup de choses. Je crois qu'il nous malmènerait, parce qu'il a une parole libre. À aucun moment, c'est un polémiste pour faire mal, mais il essaye de... Et lui-même, il se ménage pas, et il ménage pas son lecteur, et il nous ménagerait pas. Et je crois que on est tous dans des idées reçues, une pensée qui est un peu paresseuse, un peu confortable, et qui des fois nous donne l'impression d'analyser facilement les situations. Et c'est vrai que ce soit Thérèse ou Bernanos, finalement, ils retournent dans le foyer vif de leur pensée, qui est l'Évangile. Hein. Et redevenez les enfants, c'est pas Thérèse qui l'a dit, c'est le Christ. Et quand il parle de l'enfance, si vous n'êtes pas des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, c'est pas redevenez pas des soyez des êtres debout, des femmes et des hommes debout, hein. C'est pas infantile. C'est avec toute sa, mais cette capacité à dire oui ou non, cette capacité à accueillir complètement, par exemple, le message du Christ, à le vivre véritablement, pleinement. Par exemple, je pense à ce qui se passe actuellement dans les banlieues. Et on dit que c'est beaucoup des enfants qui font n'importe quoi. Et donc, ça fait monter une pensée populiste. On dit, ouais, mais il faut remettre tout ça en place. Ces jeunes-là, c'est insupportable que les parents fassent leur travail, etc. Donc, il y a quelque chose presque, voilà, de cette, une remise en ordre totale. D'un coup, je pense à Bernanos, qui dit, fais attention, parce que des fois, l'ordre, c'est le désordre, et c'est un désordre peut signaler des choses. Et je crois qu'il dirait à propos de ses enfants, ça, pour reprendre un titre d'un de ses ouvrages, des enfants humiliés. Des enfants humiliés. Et peut-être qu'il faut porter un autre regard que, bien sûr qu'il faut une fermeté, il ne faut pas se laisser tout excuser, etc. Mais peut-être d'abord, je sais par exemple que, excusez-moi, je parle un peu dans le désordre, quand j'ai été baptisé des pères spiritains, un père spiritain s'occupait de la cause de béatification à l'époque, je ne me rendais pas compte, du père Brottier. Et donc il reprenait tous ses écrits, tout était regardé, etc. Et notamment il était tombé sur un petit carnet qu'il avait, où le père Brottier avait assisté à un conseil, apparemment c'est une femme de conseil de discipline, parce que ce n'était pas des anges, les orphelins, c'était des enfants des rues qui étaient acceptés, etc. Et d'un seul coup, il y avait des adultes qui parlaient d'un enfant, comme quoi il avait fait ça, et il me montrait ce carnet du père Brottier, où le père Brottier gribouillait, on voyait une colère par rapport à ce qui était dit sur cet enfant. Et je crois que si le père Brottier a réussi à élever 8000 enfants, c'est qu'il était capable, je crois, d'être ferme avec ses enfants, mais il y avait, et ce à quoi j'ai assisté, une immense tendresse, une capacité d'accueil, une capacité de ne pas enfermer l'enfant dans ses actes, pas les, mais les accompagner, et au moment, et aller à leur rencontre, aller les chercher là où ils sont, casser un cercle de misère, pas économique, même spirituel. Et ça, c'est un don de soi. Et il a donné sa vie pour ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ces dons de personnes qui ont donné leur vie pour que je sois un homme debout, qui m'ont aidé à travers ce qui aurait pu être un chemin très chaotique. Je crois que le Bernot, c'était ça aussi. Ces gens-là me touchent profondément. D'ailleurs, ils venaient de la Première Guerre mondiale. Ils ont vécu les pires tragédies. Et ils ont cette capacité à ce coup de ce don des larmes, ce don de la tendresse. Derrière cette force, c'est pas une force qui écrase, une force de l'ordre qui veut mettre en place, mais un don. Et ça passe aussi par un, comme ils se consument, ils se donnent, en se donnant, ils savent qu'ils vont pouvoir retourner, ils vont pouvoir créer peut-être des chemins de conversion.
Samir Syad, d'une dernière question, même si on aimerait rester longtemps avec vous, mais malheureusement, on a un temps à respecter. Vous nous avez dit au départ que théâtre et votre foi, les deux se nourrissaient. Aujourd'hui, comment justement votre foi change votre manière de faire du théâtre, au-delà d'interpréter quelquefois des auteurs spirituels, comment dans le fait de pratiquer votre métier et de vous tenir sur scène, votre foi change quelque chose?
Quand on fait du théâtre au départ, c'est un peu ça peut être un miroir aux alouettes, ce métier. C'est pour ça que les parents se méfient beaucoup. Parce qu'ils disent, oh là là, ouais, tu te laisses avoir par des sirènes, et il faut être concret, il faut gagner sa vie. Et effectivement, il y a une dimension un peu qui peut être narcissique au départ, c'est être, se montrer, on parle de cabotinage, voilà, le regard de l'autre nous valorise et tout ça. Il faut pas porter un regard délétère par rapport à ça, c'est tout à fait normal. On a besoin tous d'avoir une image que l'autre nous renvoie. Et c'est vrai qu'on est comme magnifié sur scène quand on réussit quelque chose et tout ça. Alors il y a cette première dimension. Et ce que la foi m'a permis de découvrir, c'est qu'il y a aussi une notion de, excusez-moi du terme, mais de service. Lorsqu'on se met au service d'auteurs, de spectateurs, et on essaye, à travers notre art d'interprétation, de transmettre des choses. Et c'est un prisme extraordinaire, le théâtre, pour ce service-là. De la parole, total respect, que ce soit un auteur chrétien ou pas chrétien, parce que je n'ai pas voulu m'enfermer dans une espèce de théâtre confessionnel, pas du tout. Mais je crois que tous les grands auteurs, femmes, hommes, nous apportent une nourriture, nous permettent de grandir, de gagner en humanité, de devenir plus femme et homme.
Quel est le verset de l'évangile, de la Bible qui vous parle en ce moment?
Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé moi aussi, après m'être informé exactement de tout, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus.
On aura reconnu Saint-Luc. Merci beaucoup, Samir Syad, de nous avoir raconté votre chemin spirituel. Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci.